Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, la contagion continue dans le milieu du football.
Dernier joueur testé positif, Kylian Mbappé. Ses coéquipiers doivent-ils se faire du souci? On va poser la question à Sophie Orange. À son tour, la Chine affirme avoir mis au point des vaccins contre le coronavirus. Et puis, jour de reprise sur le Tour de France, le carnet de route de Laurent Jalabert à la fin de ce journal.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Au suivant, la série noire continue sur les terrains de football. C'est maintenant Kylian Mbappé qui a été testé positif au coronavirus. L'attaquant du PSG et des Bleus au repos forcé. Philippe Sanfourche, il ne jouera pas ce soir contre la Croatie.
Oui, Kylian Mbappé avait évidemment été testé négatif lors de tous les précédents prélèvements à Clairefontaine. C'est le dernier effectué hier matin par l'UEFA qui s'est avéré positif. Le joueur asymptomatique en a pris connaissance juste après l'entraînement hier soir au Stade de France. Immédiatement isolé, il a de suite regagné son domicile. Son forfait face à la Croatie ne va pas vraiment impacter l'équipe de France puisque Didier Deschamps avait de toute façon prévu de le placer sur le banc des remplaçants. Tous les autres joueurs ainsi que le staff et l'ensemble de la délégation étant négatifs, aucune menace ne pèse sur la tenue de la rencontre. En revanche, c'est le PSG qui se retrouve un peu plus dans la panade avec désormais 7 joueurs positifs et forfaits contre Lens jeudi et l'OM dimanche. De quoi contrarier un peu plus Leonardo, le directeur sportif, furieux hier soir de ne pas avoir été prévenu par la fédération du contrôle positif de Kylian Mbappé. C'est par la presse, puis en appelant le joueur, que le PSG a compris qu'il allait devoir faire sans son champion du monde.
Philippe Sanfourche, bonjour Sophie Orange.
Bonjour.
L'inquiétude doit gagner les Bleus, on l'imagine. On a vu Kylian Mbappé à touche-touche avec ses coéquipiers ces derniers jours. L'équipe de France, futur cluster?
En tout cas, il y a un risque que Mbappé soit contagieux depuis quelques jours. Combien sans symptômes? C'est pas évident d'établir un calendrier avec précision. On sait aujourd'hui qu'une fois le virus attrapé, il faut en moyenne 48 à 72 heures pour éventuellement le transmettre aux autres. L'attaquant a été testé négatif mercredi dernier, mais il est peut-être positif depuis jeudi, vendredi, samedi, jour de match, jour de son but. Était-ce bien nécessaire, franchement, d'embrasser ses coéquipiers à un moment où plus personne ne se fait la bise dans la vraie vie? On espère aussi que les joueurs de l'équipe de France portent un masque dès qu'ils sont dans la même pièce à l'intérieur, qu'ils ne passent pas des heures à jouer aux cartes ou à la console collés les uns contre les autres. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les scientifiques estiment qu'une personne qui n'a pas de symptômes a une charge virale moins élevée qu'un malade qui a de la fièvre ou qui tousse. Donc Mbappé n'est peut-être pas très contagieux. Mais maintenant, les cas contacts. Olivier Giroud, Antoine Griezmann notamment, qui l'ont félicité chaleureusement samedi soir. Ils devraient rester isolés. Inutile a priori de faire le test aujourd'hui, c'est trop tôt. Ils devront attendre quelques jours et surtout croiser les doigts.
Merci beaucoup Sophie
Orange. Et porter un masque.
Et Chelsea, le club d'Olivier Giroud et le FC Barcelone, celui d'Antoine Griezmann, doivent tout particulièrement croiser les doigts en ce moment. En tennis, la numéro 1 mondiale australienne Ashleigh Barty ne veut prendre décidément aucun risque face au virus. Elle avait déjà annulé sa participation à l'US Open. Elle annonce ce matin qu'elle ne se rendra pas non plus à Roland-Garros, le tournoi qui commence dans près de 3 semaines maintenant.
RTL 8h03. Et si le premier vaccin contre le coronavirus était chinois?
La course à l'échalote continue. C'est à qui trouvera avant tout le monde l'antidote. La Russie a affirmé cet été par la voix de Vladimir Poutine l'avoir mise au point, mais les tests en réalité ne sont pas terminés. Et depuis hier, c'est la Chine qui prétend avoir une longueur d'avance. Sur place, pour RTL, Stéphane Pambrin.
Les vaccins les plus prometteurs sont même présentés à Pékin cette semaine à l'occasion d'une foire commerciale, Sinovac et Sinopharm, dont les vaccins sont actuellement en phase 3 de tests avec des essais sur l'homme, plus de 50 000 personnes qui servent de cobayes dans une dizaine de pays. Sinovac a même déjà construit une gigantesque usine à Pékin capable de produire 300 millions de doses par an et pourrait monter jusqu'à 1 milliard. L'usine du monde mobilise tous ses laboratoires, qu'ils soient privés, publics ou militaires, avec des moyens exceptionnels. Des dizaines de vaccins sont déjà à l'étude et parmi les recherches les plus avancées, celles de l'Académie militaire des sciences, projet très médiatisé ici avec à sa tête la générale Chen Wei qui pose en treillis devant les caméras. Des milliers de soldats auraient déjà été vaccinés.
À Pékin pour RTL, Stéphane Pambrin. Le coronavirus qui perturbe la rentrée scolaire en France, 28 établissements et 262 classes sont déjà fermés en raison de cas de Covid. C'est ce qu'indique le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Et puis coup de théâtre à Casablanca dimanche soir, peu avant minuit, juste avant la rentrée qui était prévue hier. Les autorités marocaines ont annoncé la fermeture de toutes les écoles et ce pour 2 semaines à cause d'une reprise de l'épidémie. Un coup dur pour les parents. Les accès à la métropole de plus de 3 millions d'habitants sont également limités. Et puis les effets du coronavirus sur l'emploi. Chez nous en France, les derniers chiffres de l'INSEE montrent la destruction de plus de 158 000 postes dans le privé au deuxième trimestre. Il y en avait eu près de 500 000 au premier.
Dans un instant, la douleur de Catherine. Son mari est la première victime des attentats de Charlie Hebdo et elle témoignera aujourd'hui au procès.
C'est une douleur de plus, mais il faut en passer par là. Parce qu'il faut laisser une trace, il ne faut pas oublier tout ça.
La suite du journal dans un instant sur RTL, il est 8h05.
RTL Matin.
8h07, la suite du journal de Jérôme Florin. Elle témoigne pour qu'on n'oublie pas son mari.
Catherine, la veuve de Frédéric Boisseau. Il était agent de maintenance et il est le premier à avoir été tué par les frères Kouachi le 7 janvier 2015. Il se trouvait dans la loge du gardien de l'immeuble abritant les locaux de Charlie Hebdo. Il avait 42 ans. Catherine sera la première des proches de victimes à être entendue aujourd'hui par le tribunal.
J'attends pas grand-chose du procès. C'est une douleur de plus, mais il faut en passer par là. Parce qu'il faut laisser une trace, faut pas oublier tout ça. Mais moi, je suis vraiment centrée sur mes enfants. C'est le principal. Donc, je peux pas me consumer dans la haine. Sinon, je pourrais pas les faire avancer comme il faut.
Vous avez dit, s'il n'avait pas été là, je serais partie avec Frédéric.
Bah oui. Je vis pour eux, bien sûr. Et ils ont bien avancé. Ils vivent avec, mais ils sont équilibrés. Non, c'est bien.
Vous pensez pouvoir trouver une forme d'apaisement un jour?
Je suis pas sûre, parce que je suis pas sûre que j'arriverai à faire ce deuil-là un jour. Mais bon, on avance.
Témoignage recueilli par Thomas Proutot à retrouver en intégralité sur notre site rtl.fr. On en vient à cette mésaventure vécue par plusieurs élèves d'un collège d'Orsay en Essonne. Lors de la rentrée, ils se sont vus refuser des manuels scolaires parce que leurs parents n'étaient pas à jour du paiement de la cantine. C'est l'un des parents d'élèves qui a levé ce lièvre. Il est aussi conseiller municipal d'opposition. Il s'appelle Jean-Christophe Peyral et il est avec Laura Maucci.
Au moment où les élèves passent au CDI pour récupérer les livres scolaires, quand c'est le tour des élèves, on leur dit bah non, toi on te donne pas les manuels scolaires parce que tes parents ne sont pas à jour des frais de cantine. Donc ça se dit publiquement devant tout le monde à des enfants qui sont pas du tout concernés par ça. J'ai reçu beaucoup de témoignages de parents qui me parlent d'enfants qui sont rentrés en pleurs. La décision de l'établissement est totalement illégale. Les manuels scolaires n'appartiennent pas à l'établissement. Ça appartient à l'État. Nous avons d'un côté un abus de pouvoir de la part de la direction et la deuxième, c'est qu'on n'a pas à faire pression sur des enfants pour pouvoir toucher des parents.
Voilà, alors la direction de l'école s'est depuis excusée en évoquant un dysfonctionnement interne et elle précise que tous les élèves ont désormais reçu leur manuel. À l'étranger, on était sans nouvelles d'elle depuis hier matin. L'opposante biélorusse Maria Kolesnikova avait été enlevée par des hommes cagoulés dans le centre-ville de Minsk. On apprend ce matin par les douanes qu'elle a été retrouvée en Ukraine. Elle a été forcée, semble-t-il, à traverser la frontière comme de nombreux opposants au président Loukachenko.
RTL 8h10. Et c'est reparti pour le Tour de France après une journée de pause.
Avec une promenade d'île en île aujourd'hui, île de Léron, île de Ré, 169 km.
RTL, Tour de France 2020. Le carnet de route de Laurent Jalabert.
Laurent Jalabert avec vous, Christophe Paco.
Bonjour Laurent Jalabert.
Bonjour.
On attaque une deuxième semaine, on va traverser la France d'ouest en est.
Après une journée de repos, qui aura fait certainement du bien à tout le monde, le peloton du Tour de France était secoué par des chutes, par une course rapide, bien que les écarts soient serrés au classement général. On reprend le chemin de la compétition avec 2 étapes de plaine pour commencer, l'île de Ré aujourd'hui et puis Poitiers demain. Les sprinteurs auront le sourire très certainement, mais ils devront se dépêcher parce qu'ensuite, il y a à nouveau du relief avec des étapes pour les baroudeurs. Ça promet du beau spectacle en direction de Saran, où on fêtera évidemment Raymond Poulidor, légende du cyclisme qui nous a quittés l'hiver passé. Dès le lendemain, ce sera vendredi, on arrivera dans le Cantal avec le fameux Puy-Marie. Belle arrivée au sommet avec une bataille entre les meilleurs pour un maillot jaune qui ne tient qu'à quelques secondes. Un petit sprint samedi pour les sprinteurs et le Grand Colombier, étape magnifique, prévue dimanche, où je crois que le prochain jour de repos sera le bienvenu.
Oui, parce qu'après il restera quand même, je vous dis ça comme ça, il restera les Alpes.
Après l'heure d'œuvre avec les Pyrénées, plat de résistance cette semaine, avec le Puy-Marie et le Grand Colombier dans l'Ain. Et puis en dessert, tiens, je vous servirai quelques étapes dans les Alpes.
Allez, on verra ça évidemment ensemble, comme tous les jours. Laurent Jalabert, on vous retrouve pour l'étape de cette journée, tout à l'heure, à 10h.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, messieurs le duo Paco Jalabert, tous les jours dans le 8h.
Et c'était le journal de Jérôme.